Le journal Bernadette Chamonaz, bonjour.
Bonjour, deux notes, et on savait que c'était lui, Didier Lockwood, est mort hier soir, terrassé par une crise cardiaque. Hommage dans ce journal au musicien génial et sans frontières. SNCF, le train de la réforme est lancé, ouverture des consultations aujourd'hui. Le Premier ministre en pilote d'une manœuvre délicate. Wauquiez, propos volés, les coulisses de l'affaire, on vous en dit plus. Buzz, transparence, quelques-uns des enjeux de la démocratie, on en parle avec votre invité à 8h20, Nicolas.
Le sociologue québécois Mathieu Bock-Côté, qui dialoguera avec vous vers 8h40. Vos appels au standard d'Inter 01 45 24 7000.
Dans l'actualité encore, la mort d'un des rares Français partis combattre Daesh aux côtés des Kurdes en Syrie. À Aix-en-Provence, un procès sous très haute surveillance avec un premier repenti corse. Témoignages de prostituées qui ont pu quitter le trottoir. Et puis nous irons sur la glace de Pyeongchang. Le couple Papadakis-Cizeron, deuxième après le programme court. Ils visent l'or.
France Inter.
Mais d'abord, on commence par ce week-end noir en montagne. 5 morts. Et ce n'est pas la neige qui tue, mais l'imprudence. Un père et sa fille emportés par une avalanche à Val d'Isère. Ils skiaient sur une piste fermée, pourtant par sécurité. Un snowboarder à la grave emporté, lui aussi. Il faisait du hors-piste. Deux autres skieurs ont été tués par des chutes. Écoutez ce que disait il y a quelques minutes au micro de Xavier Demangy sur France Bleu Isère, le commandant David Petitjean des CRS de montagne.
Là, on a quand même des conditions de neige un petit peu particulière, contrairement au début de la semaine dernière où le manteau était vraiment agréable à skier, notamment de la pluie qui est tombée en altitude. Ça crée une neige très dure sur laquelle il ne faut absolument pas glisser. Et c'est ce qui a occasionné donc le décès d'un skieur, notamment dans les Hautes-Alpes. Un skieur d'ailleurs très confirmé. Il faut vraiment respecter la réglementation en vigueur. Si les pisteurs secouristes ferment une piste, c'est qu'ils considèrent qu'il y a des risques particuliers. Il ne faut pas s'engager sur ce genre d'itinéraire, évidemment. La règle classique en montagne, il faut se renseigner auprès des locaux qui, eux, pourront vous donner vraiment les conditions de neige et notamment ce qui s'est passé les jours précédents, parce que le manteau neigeux ne cesse d'évoluer. Et ce qui est vrai un jour ne l'est plus spécialement le lendemain. Et ça, il n'y a que les locaux qui peuvent vous fournir ces informations.
Le commandant des CRS de montagne au micro de Xavier Demangy. Le risque d'avalanche est donc marqué. Prudence en cette période de vacances scolaires.
Il était l'excellence française du violon. Didier Lockwood est mort.
Terrassé par une crise cardiaque après un concert hier soir à Paris. Il avait 62 ans. Musicien de génie reconnu dans le monde entier. Le monde, son univers, car c'était avant tout un homme sans frontières, jazzman, mais pas seulement. Écoutez la chanteuse Catherine Lara, comme Nougaro, Barbara, Higelin, elle avait joué avec lui.
Il a un son magnifique, il a une ouverture d'esprit musicale incroyable. C'est un homme tellement doux, tellement délicat. D'ailleurs, sa façon de jouer est pleine de finesse, de générosité. C'était un magnifique violoniste, vraiment quel triste départ. Il a une façon de jouer extrêmement généreuse qui fait qu'il était, je dirais, très accessible à tout le monde. Ça me triste énormément. C'est vraiment un gros manque.
Le rire, la voix, tout était... Écoutez, Catherine Lara, pardon, très émue en apprenant la mort de Didier Lockwood. Pas de frontières de génération non plus pour le musicien, un passeur de passion. Il avait même fondé une école où il enseignait l'improvisation. C'était à Damary-les-Lys, en Seine-et-Marne. Ça existe toujours, bien sûr. Écoutez comme il en parlait sur France Musique en mars 2016, au micro de Sophie Delpont.
Le premier exercice qu'on fait, c'est un exercice d'imitation. C'est-à-dire que je leur joue des phrases et elles doivent les répéter dans un cadrage rythmique. Donc tout le monde doit battre du pied. Pourquoi ? Parce que le pied, c'est l'étayage. Hein. Le corps, c'est l'étayage du rythme. 1, 2, 3, 4. Là, on va aller dans des exercices qui sont plus apparentés à la notion de swing, qui est très particulière. Ce qu'on appelle, de manière schématique, le shabada. Mais ça paraît simple, mais en fait c'est très compliqué puisque c'est une musique en apesanteur. Je pense que ça serait très important, par exemple, dans l'apprentissage musical des enfants, dès le plus jeune âge, qu'on induise cette fonction du corps pour travailler la coordination. Le violon de jazz, c'est la spécialité de violon la plus connue à l'étranger. Les violonistes de jazz sont pour la plupart français dans le monde. Et on est infoutu de prendre ça en considération. On monte une classe d'accordéon, par exemple, au CNSM, mais on n'a pas une classe de violon jazz, qui est un enseignement extrêmement spécifique. Donc il y a d'autres voies et il faut les prendre en considération. Remettre en jeu cette notion de plaisir, de jeu. On dit jouer la musique. Moi, j'ajouterais, je dirais parler la musique.
Je vais mettre plus de notes. Hein.
Voilà, même le rire, la voix, tout était musique chez Didier Lockwood. France Inter lui rendra hommage, bien sûr, aujourd'hui dans ses différentes éditions. La réforme de la SNCF lancée sur les rails et à fond de train, début des consultations au gouvernement avec tous les acteurs concernés dès aujourd'hui, 4 jours seulement après avoir reçu le rapport Spinetta. Édouard Philippe consulte les dirigeants du groupe, car c'est bien le Premier ministre, Karine Bécart, qui va piloter la manœuvre ô combien délicate.
Le Premier ministre espère aller très vite. C'est vrai que c'est un dossier avec assez peu de gens à consulter. Dès aujourd'hui, Édouard Philippe reçoit donc la direction de la SNCF. Et puis, il y aura des discussions avec les associations d'usagers, sans oublier, pour finir, ce que l'on appelle les autorités de régulation. Bref, cette première phase pour Matignon est une affaire de quelques semaines. En revanche, c'est ensuite que cela se complique, quand le Premier ministre devra, au début du mois de mars, définir les grands axes de sa réforme. Parce que d'ores et déjà, Matignon ne s'en cache pas, il faudra s'attaquer à la question du statut des cheminots, au manque de compétitivité de l'entreprise, à sa mise en concurrence, autant de sujets que la CGT, Édouard Philippe le sait, ne laissera pas passer. Cela dit, le Premier ministre n'est pas inquiet. Il est même persuadé qu'il aura les Français de son côté, des Français attachés, c'est vrai, à leur service public, mais qui seraient trop déçus désormais par le niveau du service rendu.
Et de son côté, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, reçoit les syndicats. Elle va devoir les convaincre, à commencer par la CGT, qui elle aussi ne perd pas de temps. Au lendemain de la publication du rapport, son secrétaire général le qualifiait sur France Inter de casse de la SNCF et annoncé aussi grève et manifestation pour le 22 mars. On en vient au buzz qui a agité le monde politique tout le week-end, et particulièrement la droite. Première concernée, les fameux propos de Laurent Wauquiez, le président du parti Les Républicains, qui dézingue à tout va devant les étudiants d'une grande école de commerce, de Lyon, Macron, Darmanin, Sarkozy, tout le monde en prend pour son grade. Élodie Forêt, bonjour.
Bonjour.
Alors, on s'est beaucoup interrogé. Savait-il qu'il était enregistré? Si oui, comment a-t-il pu se laisser piéger, lui si intelligent? Ou était-ce à l'insu de son plein gré? Vous en savez plus, Élodie, sur les coulisses de l'affaire.
Ah oui, beaucoup de questions sur ce Wauquiez Gate. En revanche, peu de témoins directs pour y répondre. Pas de réaction officielle de l'école. Quant à la trentaine d'étudiants présents, ceux qui s'expriment sur Twitter défendent le professeur Wauquiez. Ils sont même quelques-uns à décrocher leur téléphone pour expliquer à quel point ces déclarations ont été détournées du contexte et pour rappeler que ces quelques minutes ne sont qu'une infime partie du cours qui a duré 2 jours. L'un d'eux accuse aussi Quotidien d'avoir envoyé des messages en amont pour convaincre un étudiant de faire fuiter le cours. Oui, mais ces étudiants qui soutiennent tant Laurent Wauquiez sont-ils impartiaux? Difficile à croire puisque c'est le service presse du parti Les Républicains lui-même qui diffuse leur numéro. Du côté de Quotidien, pas d'information. La direction a donné l'ordre à ses journalistes de ne pas communiquer. Selon le journal Le Parisien, ils auraient entre leurs mains plusieurs heures d'enregistrement et potentiellement d'autres phrases choc à dégainer.
Affaire à suivre donc. Merci Élodie Forêt. En tous les cas, ils sont peu nombreux dans son propre camp à défendre le patron des Républicains. Quant à Xavier Bertrand qui a quitté LR, il fustige les mots qui ont été dits. Ça pourrait être un des membres de la famille Le Pen. Même tonalité, même violence. Il était parti combattre en Syrie aux côtés des Kurdes contre le groupe État islamique. On a appris hier la mort du Français Olivier Leclinche, tué dans les combats qui opposent maintenant les Kurdes à l'armée turque à Afrin, au nord de la Syrie. Mort qui n'est pas confirmée par le Quai d'Orsay. L'homme était connu pour avoir été interviewé plusieurs fois. Les journalistes voulaient comprendre, Claude Guibal, cet engagement dans ces brigades internationales.
C'était il y a quelques semaines et les envoyés spéciaux de France Info, Jérôme Jadot et Éric Audra, avaient
rencontré Olivier Leclinche de son nom de guerre, Kendall Brez, non loin de Deir-ez-Zor, près de la frontière irakienne. Ancien ouvrier intérimaire, devenu depuis son arrivée 6 mois plus tôt en Syrie, opérateur lance-roquettes auprès des combattants kurdes YPG. Kendall Brez expliquait alors qu'il envisageait sereinement de revenir en France sans risque d'être inquiété par les autorités.
Il y a peu de conséquences pour les gens qui ont déjà eu l'occasion de retourner. Pour une raison très simple, c'est qu'il serait un peu hypocrite de la part de la France de poursuivre des gens qui combattent avec les YPG, alors qu'à quelques kilomètres d'ici, vous avez les forces spéciales françaises qui font de même.
Comme Kendall Brez, il serait quelques 200 étrangers à combattre aux côtés des soldats kurdes YPG, américains, canadiens, quelques français, une brigade internationale de volontaires, un terme qui recoupe des parcours et des motivations parfois très divers, des idéalistes prêts à en découdre avec les djihadistes, mais on y retrouve aussi parfois, rappelle des spécialistes, des conflits asymétriques, des mercenaires non déclarés comme tels, puisque le mercenariat est par exemple interdit en France depuis 2003. Parmi eux, souvent d'anciens militaires ou agents de sécurité privée, déjà rompus au combat et efficaces sur le terrain.
Claude Guibal, au Daghestan, un homme ouvre le feu sur des fidèles à la sortie d'une église orthodoxe. 5 morts, plusieurs blessés. Une attaque revendiquée par le groupe État islamique. C'est la première fois que la minorité orthodoxe est visée par le terrorisme islamiste dans cette république musulmane du Caucase.
Inter 8h11, les paroles de prostituées sont rares. Témoignage sur France Inter ce matin.
Celui d'une prostituée qui a quitté le trottoir grâce au parcours de sortie institué par la loi Vallaud-Belkacem, l'ancienne ministre qui avait lancé il y a près de 2 ans une lutte résolue contre cette traite des femmes. Un appartement, un travail, une aide financière est très important à titre de séjour. Car ces femmes, souvent arrivées clandestinement en France, le disent, elles n'ont pas d'autre choix. Solène Cressan a rencontré l'une d'elles, Magali, originaire du Congo-Kinshasa, l'une des premières à avoir bénéficié de ce parcours de sortie.
Quand on est dans la rue, on n'a pas d'autre choix, surtout des filles. La seule chose que j'avais comme choix pour s'en sortir, c'était de me prostituer. C'est pour ça qu'elle a contacté le mouvement Dini. Et après, la dame elle m'a dit, il y a une loi qui est sortie pour les femmes comme toi. Tu pouvais bénéficier d'un titre de séjour avec l'autorisation de travailler. J'ai dit, c'est vrai. Je me dis oui. Maintenant, je touche à 430 €, ce qui a été prévu par la loi. Et j'ai mon titre de séjour. Je travaille un peu, pas mal de choses. Je travaille. Ça fait qu'il ne faut pas que j'aille courir par-ci, par-là, donner mon corps pour avoir à manger. Et je suis fière de moi avec mon papier. S'il y a, un problème, moi-même, je peux me défendre. S'il y a un souci, j'ai des gens qui peuvent directement m'aider, c'est ça en fait. Je sens, je peux dire, en valeur quoi.
Magali, qui fait partie donc des 29 femmes qui bénéficient actuellement de ce parcours de sortie, de la prostitution. 2 unités du RAID mobilisées. C'est un procès sous très haute surveillance qui s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Procès du grand banditisme corse. On y juge un meurtre commis par la bande dite du Petit Bar. Et si ce procès a pu avoir lieu, c'est qu'un homme a brisé l'omerta. Premier repenti corse. Il est d'ailleurs jugé lui aussi pour une partie des faits. Il s'appelait Patrick Giovannoni. Il a depuis changé d'identité, peut-être même d'apparence. Emmanuel Leclerc.
Giovannoni n'avait pas de casier judiciaire et pourtant il avait un rôle clé dans la bande de tueurs présumés jugés à Aix-en-Provence. Le seul à avoir un travail déclaré, il gardait jusqu'en octobre 2010 le dépôt d'essence d'une boîte de sécurité privée. Mais c'est là aussi qu'il entreposait les armes d'un chef hémiplégique, Jacques Santoni, qui a durant de longues années échappé à la justice. Pas de traces, pas de preuves, accusé de faire régner la terreur, racket, meurtre, drogue, prostitution, discothèque pour son propre compte ou pour des clans familiaux sur l'île. Patrick Giovannoni avait aménagé une cache où les policiers ont retrouvé près d'une centaine d'armes de tout calibre. Mais ce chapitre-là n'apparaît pas dans l'acte d'accusation. Pour s'être repenti après avoir été démasqué par les enquêteurs de la police judiciaire dans une autre affaire. Il ne voulait pas plonger, il redoutait surtout d'être liquidé par ses acolytes. Giovannoni a donc tout balancé du jamais vu, jamais entendu en Corse et il sera bien là sous protection des policiers du RAID dans le box des accusés si le huis clos est décidé au début de l'audience. Il n'y a pour l'instant pas de visioconférence de prévu.
Emmanuel Leclerc, direction Pyeongchang maintenant, les JO. C'est le titre olympique que le patinage artistique français attend depuis 16 ans en danse sur glace. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron lancent leur quête de l'or. Ils ont terminé tout à l'heure 2e du programme court. C'est bien, ça aurait pu être mieux s'il n'y avait pas eu Fabrice Rigobert. Comment dire, comme un glissement imprévu.
pour leur première participation à des Jeux Olympiques, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron s'étaient préparés à tout, sauf à ce qu'une petite couture cède dès les premières mesures de Shape of You d'Ed Sheeran.
Le haut de ma dresse est ouvert. Le haut de ma robe, c'est ouvert. Je m'en suis aperçue parce que je l'ai senti et puis j'ai rien fait, j'ai juste continué à patiner.
Imaginez que votre pantalon se défait et qu'à tout moment ça peut tomber.
Voilà. On peut voir vos organes génitaux, imaginez ça. Faut que c'est ça. Donc on continue à patiner et puis on prie pour que la robe tombe pas.
Heureusement, Gabriela Papadakis ne s'est pas retrouvée nue en Mondovision. Dans ces conditions, le point 74 de perdu sur leurs rivaux canadiens paraît dérisoire. Ils auraient pu faire mieux, note paradoxalement le président de la Fédération des sports de glace, Didier Gayaguet.
Je manquais un peu de feu. Il manquait un peu de passion, passion connected, comme on dit ici.
Passion connectée, comme le slogan des Jeux, mais rien n'est perdu. L'or olympique reste à portée pour Guillaume Cizeron.
C'est tout à fait rattrapable. Voilà, notre programme libre, ça a toujours été notre point fort. Et voilà, on n'a rien à perdre demain et on va juste essayer de faire notre mieux.
Avec leur sonate au clair de lune propice à la mise à nu des sentiments, les Français détiennent le record du monde du nombre de points sur le programme libre. De bon augure. Peyong Chang, Fabrice Rigobert, France Inter.
Et demain, on retrouvera aussi Martin Fourcade, le bleu, le plus titré des Jeux. Il peut encore ajouter 2 médailles aux 4 qu'il a déjà décrochées. Allez, comme Akili, on lui dit, va doucement, Martin. Pas trop, quand même.
Ouais. Merci, Bernadette Chamonaz.